France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
À Mademoiselle Clairon, 24 septembre 1760. Je joue Tancrède ce soir. Sachez, divine Melpomène, que je fais pleurer dans le rôle du bonhomme. Il faut un vieillard vert, chaud, à voix moitié douce, moitié rauque, attendrissante, tremblotant. Divine Melpomène, je vous conjure, par les lois immuables du goût, de ne point sortir du théâtre au second acte comme une muette qu'on va pendre.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. L'histoire du théâtre n'est pas seulement passionnante parce qu'elle est riche en informations sur les sociétés qui se reflètent sur la scène, qu'elles soient magnifiées, dénoncées ou stimulées. Elle nous renseigne aussi sur divers défis que rencontre cet art essentiel à chaque époque et sur la manière dont ses protagonistes ont pu les surmonter. Il s'agit au premier chef de la liberté d'expression et de création que s'efforcent généralement de brider diverses puissances politiques et sociales. Pour prendre la bonne mesure de ce beau sujet, un précieux éclairage consiste à s'intéresser à la condition des comédiens, brillantes parfois et presque toujours fragiles. Les derniers temps de l'Ancien Régime et le moment révolutionnaire offrent à l'enquête, à cet égard, un champ très fécond. Suzanne Rochefort, mon invitée, docteur en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales et maîtresse de conférences à l'Université de Lorraine, à Metz, vient de s'y attacher dans un livre précieux sur lequel va se fonder notre conversation. En scrutant le destin des acteurs et des actrices au XVIIIe siècle, dans l'éclat de la scène comme dans l'ombre des coulisses, du côté des grands théâtres de la capitale comme des spectacles, des boulevards et du Palais Royal, elle donne à connaître et à interpréter une tension permanente entre deux données majeures. D'une part, le prestige des artistes, celles et ceux qui portent et qui incarnent un art primordial, capable plus que jamais d'attirer les foules les plus privilégiées comme les plus populaires, et d'autre part, la méfiance persistante qui les entoure quant à leur influence éventuellement subversive ou moralement délétère. Les grandes figures des Lumières s'affrontent d'ailleurs sur ce sujet. Voltaire d'un côté, Rousseau de l'autre. Et leur désaccord même témoigne d'une effervescence intellectuelle, artistique et en définitive politique qui appelle la curiosité.
Les comédiens, on dit souvent, savants du vent, à la sauvette, ils vont de scène en scène et partent en tournée. Et dès qu'ils sont vêtus des habits qu'on leur prête, ils deviennent Jésus, Harpagon ou Hamlet. Les comédiens ne seraient rien sans les Lumières. Et comme ils veulent plaire et veulent être aimés, ils jouent même en plein jour, comme disait Molière, devant que les chandelles aient été allumées. Les comédiens, disent les gens, c'est plus changeant que Girouette. Ils jouent avec le mal, ils jouent avec le bien. Ils versent de vrais pleurs au fond la pirouette. Ils ont de faux bonheurs, ils ont de faux chagrins. Les comédiens, quand le soir vient, se reconnaissent. Ils savent qu'ils existent au creux de leur miroir, lorsque le fond de teint leur rend une jeunesse, qu'ils démaquilleront vers minuit moins le quart. Les comédiens, disent les gens, ont bien souvent des amourettes. À force de jouer, ils se prennent au jeu. Sans être Roméo, on s'éprend de Juliette. Juste le temps qu'il faut pour en souffrir un peu. Les comédiens, quand l'âge vient, quittent la scène. Et quand il leur advient de vivre de longs jours, sur cour ou sur jardin, tout seul ils se souviennent de ce fichu métier qu'ils ont aimé d'amour.
Suzanne Rochefort, bonjour.
Bonjour.
Je vous voyais un beau sourire en écoutant cette chanson de Jean-Roger Caussimon, interprétée par lui. Ce sont ses paroles, la musique est d'Éric Rebrecht, une chanson enregistrée en 1972. Vous allez y trouver beaucoup de choses qui sont dans votre livre, les odeurs, les couleurs, les bruits, les faux-semblants, la mémoire, la durée, non ?
Oui, exactement. C'est vraiment une chanson qui est très passionnante, extrêmement riche. Parce que finalement, c'est une chanson qui part d'un certain nombre de stéréotypes qui sont toujours associés aux acteurs. Hein. Donc cette méfiance envers, par exemple, leur itinérance, envers le mensonge, envers l'illusion qu'ils peuvent véhiculer. Puis le fait aussi qu'ils voudraient tout le temps chercher à plaire, chercher à se mettre en avant, à se mettre en évidence. Et ça sera finalement un socle de critique qu'on retrouve tout le temps au XVIIIe siècle. Et d'un autre côté, là, on a au XXe siècle une sorte de douceur affectueuse dans la chanson qui évoque aussi la souffrance des acteurs, ce lien parfois difficile qu'ils peuvent avoir à leur métier, ce lien ambivalent où il y a à la fois, il dit, un fichu métier mais qu'ils aiment d'amour. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à une formule qui m'a beaucoup marquée. Elle est écrite en coulisses parce que c'est pas des choses qui se disaient très publiquement. Mais c'est un acteur qui s'appelle Garnier en 1773.
Aucun rapport avec le palais Garnier.
Aucun rapport avec le palais Garnier. Et ce Garnier dit « C'est un état épineux et ingrat, mais que j'aime avec idolâtrie ». Et donc on a vraiment cette expression de ce lien compliqué à son métier, mais qu'on aime finalement quand même avec passion.
On croirait que votre Garnier a écouté Caussimon.
Exactement, c'est ça, ça fait vraiment une résonance.
Alors nous allons nous promener, nous allons errer, nous allons voyager à travers ce monde en vérité passionnant. Je pense que nous allons le démontrer. Votre préfacier, Antoine Lilti, professeur au Collège de France, que j'avais invité il y a une dizaine d'années pour parler de l'émergence de la célébrité. C'était le titre d'un livre qui avait beaucoup marqué. Antoine Lilti dit que le théâtre a été la grande passion du XVIIIe siècle. C'est aussi la vôtre.
Ah oui, complètement. Exactement, et c'est ça qui m'a beaucoup attirée dans l'étude de ce métier, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, on commence à vraiment pouvoir être célébré publiquement pour ses talents artistiques. Et en même temps, y a toujours cette ambiguïté, cette ambivalence, parce que c'est aussi une figure qui cristallise la méfiance du public. Et cette exposition, finalement, de soi et de son corps sur scène peut susciter aussi beaucoup de critiques. Et donc, c'est une figure qui me semblait particulièrement intéressante à étudier pour le XVIIIe siècle, avec cette émergence de la célébrité notamment.
Cette tension qui vous a frappé, elle a frappé déjà les contemporains. Je ne voudrais pas vous accabler, mais je pourrais vous mettre sur la même ligne que Diderot, ou que Voltaire ou que Rousseau, qui se sont beaucoup contredits, surtout d'un côté Rousseau, plutôt négatif, et d'autre part les gens de l'encyclopédie, d'Alembert en particulier. Alors, je voudrais vous faire entendre ce qu'écrit Diderot dans « Le paradoxe sur le comédien ». Écrit en 1769. Rappelez-nous ce que c'était que cette œuvre.
Cette œuvre, en fait, voulait mettre en évidence, en fait, un nouveau rapport à l'art du spectacle, à l'art de jouer, en expliquant finalement que ceux qui jouent le mieux ne seraient pas ceux qui ressentent vraiment les émotions pour les jouer et les transmettre ensuite, mais qu'au contraire, il faudrait faire ce qu'on appelle jouer de sang-froid, c'est-à-dire composer entièrement une émotion factice pour pouvoir ensuite mieux la transmettre au public. Donc ce sont deux visions, en fait, du jeu du comédien qui s'opposent. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est plutôt la question de la sensibilité, celle qui n'est pas défendue par Diderot, qui est plutôt en vogue. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on est dans un moment un petit peu de basculement, où en tout cas, il y a ces deux visions qui commencent à s'opposer et qui forcément se mêlent un petit peu.
Il est notable néanmoins que ce texte dans son intégralité n'a été publié qu'en 1830, si je suis
tout
bien
à fait,
informé.
Exactement.
Grâce à vous, informé.
Exactement, en fait, il n'est pas publié à l'époque et d'ailleurs, j'ai été frappée moi-même du fait que dans les correspondances entre acteurs et actrices, ils parlent très peu finalement de grands traités sur les spectacles et pas de celui-là, évidemment, puisqu'il n'est pas publié encore.
Eh bien, j'emprunte cette lecture au nouveau chemin de la connaissance de notre chère Adèle Vendrette. C'est dans une émission qui était intitulée « Du comédien à l'acteur » qui avait été diffusée le 26 juin 2012 sur France Culture. Denis Diderot.
Avant de dire « Zahir, vous pleurez » ou « Vous y serez, ma fille », l'acteur s'est longtemps écouté lui-même. C'est qu'il s'écoute au moment où il vous trouble. Et que tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompiez. Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille. Les gestes de son désespoir sont de mémoire et ont été préparés devant une glace. Et c'est le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes couleront. Attendez-les à ce mot, à cette syllabe, ni plus tôt. Ni plus tard. Ce tremblement de la voix, ces mots suspendus, ces sons étouffés ou traînés, ce frémissement des membres, ce vacillement des genoux, ces évanouissements, ces fureurs, pure imitation. Le son recordé d'avance, grimace pathétique, singerie sublime dont l'acteur garde le souvenir longtemps après l'avoir étudié, dont il avait la conscience présente au moment où il l'exécutait. Qui lui laisse, heureusement pour le poète, pour le spectateur et pour lui, toute la liberté de son esprit, et qui ne lui ôte, ainsi que les autres exercices, que la force du corps. L'acteur est là et vous êtes triste. C'est qu'il s'est démené sans rien sentir et que vous avez senti sans vous démener. S'il en était autrement, la condition du comédien serait la plus malheureuse des conditions. Mais il n'est pas le personnage. Il le joue, et le joue si bien que vous le prenez pour tel. L'illusion n'est que pour vous. Il sait bien, lui, qu'il ne l'est pas.
Donc, Suzanne Rochefort, le comédien échappe, ouf, à la plus malheureuse des conditions, grâce à Diderot.
Eh bien, justement, je pense qu'on pourrait nuancer un petit peu ça, hein, parce qu'on a là, dans le propos, une approche très théorique, où finalement, on met en scène vraiment un détachement du comédien total par rapport à son personnage. Il sait qu'il n'est pas le personnage. Et en réalité, quand on se plonge en coulisses, dans le concret des propos échangés, on voit à plusieurs reprises des comédiens dire qu'ils souffrent de devoir, par exemple, interpréter un personnage comique alors qu'ils sont en train de traverser des phases très dures de leur vie. C'est le cas de Mollet en 1780. Sa femme est quasiment mourante et il doit jouer un personnage comique sur scène le soir et il dit que c'est un métier affreux pour cela. Et ça, ce sont des choses pareilles qui sont exprimées en coulisses, mais finalement très peu de manière publique, voire quasiment pas.
Alors portons-nous, si vous le voulez bien, au plus concret du théâtre dans ce 18e siècle qui vous est cher, Suzanne Rochefort. C'est assez binaire. Il y a deux mondes différents sur lesquels il faut insister, je crois, d'emblée.
Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on a d'abord un côté qui est celui qu'on pourrait dire du théâtre officiel, donc c'est-à-dire les grands théâtres qui ont en fait des monopoles artistiques qui ont été donnés par le roi. Donc on parle là de la Comédie française, de la Comédie italienne et de l'opéra pour ce qui est de la musique et de la danse.
Trois lieux majeurs.
Trois lieux qui sont véritablement majeurs. Et de l'autre côté, on a un monde qui émerge au milieu du XVIIIe siècle, à partir du théâtre de foire, et toujours très en lien avec avec ces foires, hein, qui sont les théâtres situés sur le boulevard du Temple, et ensuite, hein, à partir de la décennie 1780, dans le Palais Royal, proche du Palais Royal. Alors, on peut parler de théâtres non officiels, hein, qui sont juste tolérés, mais qui sont là, qui sont bien existants, et qui, à mon avis, changent beaucoup de choses, hein, au niveau de la pratique du métier de comédien au XVIIIe siècle.
Changer beaucoup de choses, alors quoi ?
C'est une question extrêmement complexe, mais c'est l'apparition du fait qu'on peut être acteur sans être lié à un privilège, sans être lié de manière officielle à la cour, à une tutelle monarchique, mais qu'on peut tout simplement exercer son métier grâce à une entreprise privée qui marche comme ça entièrement sur les spectateurs.
L'emprise de la cour se dessert en quelque sorte, quelque peu.
Oui, complètement, parce qu'il y a cette émergence nouvelle de ces spectacles-là qui montre aussi un nouveau type d'embauche par contrat simple. Et puis, qui font en fait émerger une autre figure comme ça de l'acteur, qui un acteur non privilégié. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a à chaque fois ces deux facettes du métier qui commencent à coexister à partir du milieu du XVIIIe siècle et qu'on retrouve ensuite effectivement avec ce côté un petit peu binaire entre le subventionné et le théâtre privé.
Non sans tension entre les deux mondes.
Bien sûr, hein, il y a des attaques qui sont menées de manière très forte par les comédiens privilégiés qui voient d'un très mauvais œil le fait que ces acteurs nouveaux émergent. Ils demandent même à ce que ça soit interdit qu'ils puissent se dire comédiens. Alors ça ne sera pas appliqué, hein, mais c'est quand même extrêmement fort. Hein,
bigre.
C'est vraiment sur la dénomination, mais c'est une question qui est extrêmement importante.
Les premiers sont encouragés, les autres tolérés. Cette différence est importante. Vous faites intervenir les premiers gentilshommes de la chambre. Qui sont ces personnages ?
Oui, alors les premiers gentilshommes de la chambre, dont je parle beaucoup dans le livre, appartiennent au département des menus plaisirs du roi, qui est un département qui s'occupe des cérémonies et des spectacles à la cour.
Ça fait toujours rêver, les menus plaisirs. Ça vous donne envie d'être souverain, non ?
Ça fait, effectivement, ça renvoie directement au faste de la cour. Et c'est en fait une tutelle administrative qui est extrêmement concrète, puisque ce sont les premiers gentilshommes de la chambre qui admettent les sociétaires au sein de la compagnie et qui gèrent leur carrière, qui décident de leur retraite, etc., etc.
Cela conduit tout directement à s'interroger sur le rôle de la police. Je pense à l'influence qu'a eu un lieutenant général important à partir de 1774, Lenoir.
Oui, il a eu un rôle qui est très important parce que justement, il a accentué cette tolérance envers les spectacles situés sur le boulevard du Temple. Il n'était que deux à son arrivée et ils sont quatre ou cinq ensuite parce que justement, ça amène aussi un dynamisme économique. Et Lenoir est très souvent en liaison avec les acteurs de la comédie française et de la comédie italienne qui se plaignent de ces spectacles nouveaux. Et Lenoir fait la transition, mais de manière un petit peu lente, pas forcément de manière très très active. Mais c'est en fait un rôle d'intermédiaire quand même extrêmement important. Notamment parce que, en fait, la comédie française et la comédie italienne censurent les textes qui sont joués au boulevard. C'est-à-dire que chaque pièce du boulevard est censée avoir été approuvé avant par un des théâtres privilégiés. Donc, ils sont censés lire toutes les pièces. Dans les faits, ça peut pas arriver à chaque fois et c'est un travail très lourd pour les acteurs et actrices des comédies françaises et italiennes.
Il y a toujours aujourd'hui une distance, parfois un fossé entre le théâtre subventionné et le théâtre privé, y compris sous le regard de la critique.
Oui.
Le Monde, par exemple, parle très rarement du théâtre privé.
Oui, effectivement, et c'est vrai que ce côté binaire, il se met vraiment en place au XVIIIe siècle, puisque les entreprises qui sont situées au Palais Royal, sur le boulevard du Temple, sont des entreprises entièrement privées, où les comédiens sont embauchés par contrat d'un an, et sans lien avec l'État royal. Donc on a effectivement ce côté binaire qui se retrouve également déjà dans la presse, puisque ces théâtres privés, nouveaux, hein, on n'en parle quasiment pas, ou alors juste en termes de repoussoir, ce serait donc des spectacles où on fait des gambades, on fait des contorsions, on fait, on fait des gestes qui sont beaucoup trop marqués. Ça serait un bas comique qui n'est pas du tout le haut comique qui est défendu à la Comédie française. Donc on a vraiment déjà cette opposition.
Le recrutement à la Comédie française se dessine déjà d'une manière qui est pratiquement encore contemporaine, avec cette nomination des pensionnaires par le responsable, l'administrateur général aujourd'hui. Mais l'accès des pensionnaires à la situation sociétaire étant au contraire décidé à bulletin secret par ceux-ci. Il y a d'ores et déjà, dans ce XVIIIe siècle dont nous parlons aujourd'hui, une société.
Oui, complètement. La Comédie française est une compagnie de sociétaires qui ont investi des fonds dans le capital de la société et qui se rémunèrent sur les recettes du public parisien. Et effectivement, ce sont les sociétaires alors qui vont faire des propositions sur qui peut entrer dans leur troupe. Et les gentilshommes de la Chambre valident ensuite officiellement cette décision. Et le statut de pensionnaire naît en fait à l'époque. On appelle ça au XVIIIe siècle acteurs appointés. Ils sont entre guillemets acteurs à l'essai pour 2-3 ans. Parfois, on les fait patienter un petit peu plus. Et ensuite, on les admet ou pas dans la troupe comme sociétaires à vie.
C'est toujours le cas, sauf qu'il n'y a plus l'approbation de l'État.
Exactement.
À vous lire, on est sensible au fait que ces comédiens, ces acteurs, ces actrices sont toujours quelque part entre un succès qui les porte en avant et qui est évidemment narcissiquement très satisfaisant et le risque de prison qui peut survenir à n'importe quel moment.
Oui, effectivement, parce que effectivement, le département des menus plaisirs a la possibilité de faire enfermer au Fort-l'Évêque des acteurs ou des actrices qui se seraient mal comportés. En réalité, c'est souvent quand ils sont en retard ou ne se présentent pas à des spectacles de la cour qu'ils sont punis. Et les quelques fois où ils interviennent juste dans des querelles intérieures, c'est extrêmement mal pris par les sociétaires qui sont déjà extrêmement jaloux de leur autonomie et la défendent de manière extrêmement forte. Ils ont une tutelle, oui, mais qui ne doit pas non plus être une ingérence au quotidien qui serait trop forte, en fait.
Je voudrais que vous nous parliez maintenant, Suzanne Rochefort, de la formation de ces comédiens. Comment émergent-ils? Comment apprennent-ils leur métier? Est-ce que c'est par simple osmose? Est-ce que c'est par une sorte d'apprentissage auprès des artistes déjà installés? Ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes?
Alors, c'est complètement pluriel et ça change beaucoup au XVIIIe siècle. Le modèle un petit peu originel, c'est celui d'une formation un petit peu sur le tas, en pratiquant, et surtout en lien avec un maître en particulier qui nous prend un petit peu sous son aile. Donc ça, il y a beaucoup de binômes maître-élève qui sont très emblématiques.
Comme l'apprentissage dans beaucoup d'autres professions à l'époque.
Exactement.
À l'intérieur des corporations.
Exactement, mais justement, ce parallèle avec les corporations est repris parce qu'on dit il faudrait presque un brevet de maîtrise officiel comme dans les corporations pour pouvoir exercer.
Mais le métier échappe aux corporations, ce qui est curieux.
Le métier échappe aux corporations. Alors, la Comédie française devient une quasi-corporation en 1757 parce qu'il y a des lettres patentes qui sont octroyées à la société. Mais effectivement, il y a cette singularité qui reste toujours sur ce statut-là de la Comédie française. Et il y a la volonté aussi, à partir des années 1750, de mettre en place une école qui serait donc avec un maître et des élèves nombreux et pas un seul. Et cette école, elle va ouvrir finalement en 1786.
L'école royale dramatique, c'est ça?
Exactement, c'est l'école royale dramatique sous l'égide des menus plaisirs du roi. Donc on a toujours ce lien-là avec l'État monarchique. Et alors c'est une école qui a lieu trois fois par semaine, donc le mardi, le jeudi et le samedi matin. Et les professeurs sont trois acteurs célèbres de la Comédie française, donc un à son jour attribué, et on fait répéter des scènes aux élèves présents, qui sont souvent des comédiens de province, qui ont envie de débuter à la Comédie française, et donc qui font leurs armes dans cette école.
Je vais vous faire entendre une lettre de la comédienne très fameuse en son temps, Adrienne Lecouvreur, qui est lue ici par René Faure, qui était sociétaire de la Comédie française, dans l'émission La semaine chez Molière de Jean Debert et Jacques Régnier sur la RTF, diffusée le 29 juin 1951. C'est une lettre qui est adressée à Monsieur Piron. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un auteur qui l'a dépouillé d'un rôle qu'il lui avait promis. Elle va mourir d'ailleurs très peu de temps après. La malheureuse Adrienne Lecouvreur, très célèbre en son temps.
au début de 1730, un dernier coup la frappe. Piron avait écrit pour elle une tragédie, Calistène, et au moment de la faire jouer, il confia le rôle à la jeune mademoiselle de Balicourt, dont il était l'amant. Le couvreur essaya de se défendre, et à une lettre très hypocrite de Piron, elle répondit
« Mardi 9 janvier 1730. Monsieur, on n'a jamais mis tant d'éloquence pour dire à quelqu'un « Je crois mon succès impossible entre vos mains. » Premièrement, monsieur, vous m'avez promis de tout temps votre rôle, car je crois que c'est promettre que tout ce que vous m'avez dit avant et depuis la lecture, qu'il vous plut de vouloir faire chez moi des deux premiers actes de votre pièce. La confiance que votre naïveté m'avait inspirée, l'amitié que vous me témoignez, et peut-être mon amour-propre ne m'ont pas laissé penser un moment que le vôtre pût être douteux. Ainsi, je n'ai exigé ni confirmation ni promesse plus marquée. D'ailleurs, vous l'auriez signé de votre sang qu'au premier scrupule, j'aurais cessé d'y prétendre. Et quoi que je vous dise ici, tenez-vous pour assuré que je n'ai nulle intention de vous faire changer. Je connais toute l'étendue de votre courage à soutenir votre opinion et tout le danger et le dégoût de contraindre un homme d'esprit et d'imagination. Je suis convaincue aussi qu'en toute façon, je ne vaudrais rien que désirer. Mais je veux me justifier d'avoir osé dire en pleine assemblée que je le devais jouer. Je vous le répète, monsieur, vous me l'aviez fait espérer et promis de même que Calistène à notre ami Sarrazin. Vous nous sacrifiez tous deux, non au talent de mademoiselle de Balicourt, quoique je convienne qu'elle en ait, mais à la crainte que vous avez de monsieur Quinault, et en cela, je doute que vous preniez le meilleur parti pour vous. Quant à moi, je trouve qu'en me donnant des éloges que je ne mérite pas, vous me faites injustice d'ailleurs. Je suis bien plus éloignée de ressembler à Vénus qu'à cette Pallas que vous mesurez à l'aune. Vous oubliez que j'ai joué du temps de mesdemoiselles Desmarets et Duclos, Roxane, Nathalie, Phèdre, Elisabeth, Pauline et Cornélie, sans que le public ait paru se plaindre de ma faiblesse ni de mon courage, et je crois que l'âme est plus nécessaire que la taille.
Quel esprit, n'est-ce pas, Suzanne Rochefort, dans cette manière de se plaindre d'un rôle proposé et ensuite soustrait.
Oui, effectivement, là, on voit bien à quel point cette question-là de la distribution des rôles est extrêmement, extrêmement importante. Et donc, c'était typiquement une situation de tension au sein de la troupe qu'il faut, à mon avis, pas du tout réduire à des querelles d'égo, mais juste plutôt à des stratégies de carrière hein, où les acteurs et les actrices sont tout à fait conscients de l'importance de leur visibilité individuelle. Et c'est aussi une compétence professionnelle que de savoir gérer son image. Là, on parle d'Adrienne Lecouvreur, qui est une actrice extrêmement marquante des années 1720-1730.
Donc, elle meurt d'ailleurs, elle meurt en mars 30, quelques semaines après cette lettre.
Exactement, elle meurt brutalement, ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de renoncer au théâtre officiellement, alors que normalement, les comédiens qui sont sous le coup de l'excommunication mineure, excommunication mineure, c'est-à-dire qu'ils sont privés de sacrements et de sépultures chrétiennes, à moins qu'ils ne renoncent officiellement au théâtre. Et comme elle meurt brutalement, elle n'a pas le temps de le faire. Et alors, ce châtiment n'était pas toujours appliqué, mais dans le cadre de cette tragédienne, il semblerait que ses cendres ont été dispersées en bord de Seine, puis jetées dans une fosse commune. Et donc, c'est un incident qui bouleverse tout Paris, et notamment Voltaire, hein, qui s'insurge contre cette pratique qui lui semble d'un autre temps.
Oui, d'ailleurs, cette excommunication, Suzanne Rochefort, a duré longtemps. Je comprends qu'elle n'a été levée par l'Église qu'en 1849.
Et oui, elle perdure hein, encore jusqu'au milieu du 19e siècle.
Plus aujourd'hui, rassurez-nous.
Et plus aujourd'hui, bien sûr. Mais il y a quand même une sorte de stigmate hein, qui peut rester quand même attaché au métier. À la fois, cette ambivalence entre fascination et méfiance fait encore aujourd'hui du métier de comédien une profession qui est extrêmement spécifique. Spécifique et qui attire, hein, bien sûr, énormément, mais...
Inquiète aussi.
Mais qui inquiète aussi, oui.
Je voudrais que nous disions un mot de l'évolution de ce que nous appellerions aujourd'hui la médiatisation. Comment séduire le public? Comment intervient aussi à côté du bouche à oreille, qui est de tous les temps? J'ai aimé cette pièce, allez dans la voie. À côté, l'apparition d'une presse spécialisée. Ce qui change beaucoup le paysage où fleurit le théâtre.
Oui, complètement. Cette émergence de la presse, et notamment de la presse spécialisée, mais aussi de la presse quotidienne, hein, avec le Journal de Paris, on a une presse qui chaque jour s'intéresse à l'actualité des spectacles, qui fait des comptes rendus critiques, qui annonce les spectacles dans la presse, donc au quotidien. Et ça change énormément, puisque effectivement, ça médiatise l'opinion du public de la salle, avec toujours quand même une ambivalence, puisque c'est bien l'avis du journaliste qui est là écrit, et parfois il dit qu'il est d'accord avec les applaudissements de la salle, et parfois au contraire que ces applaudissements n'étaient pas mérités, et il en profite pour faire des critiques par rapport à la pièce ou par rapport au jeu des acteurs et des actrices. Cette réputation, elle peut être modifiée dans le bon ou le mauvais sens après une pièce.
Vous pouvez juger de leur probité, ces critiques, ou est-ce qu'on les achète soit par des faveurs spécifiques des actrices, soit par de l'argent ?
Alors, ils ne sont normalement pas rémunérés. En revanche, dans tous les spectacles, ils ont des billets gratuits, c'est-à-dire qu'ils viennent gratuitement au spectacle. Ce sont des personnes qui parfois peuvent connaître les acteurs et les actrices et parfois pas du tout. Dans le cas où ils les connaissent, ils sont parfois critiqués pour être partiaux. Mais dans tous les cas, on a cette posture un peu à la fois de porte-parole et de guide de l'opinion des spectateurs pour les aider à mieux juger les acteurs et les actrices, à mieux placer leurs applaudissements ou leurs sifflets aussi.
Deux noms continuent d'émerger, Grimaud de la Reynière et puis Rétif de la Bretonne. Ça fait penser d'ailleurs un peu à Jean-Jacques Gauthier, l'arbitre du théâtre au Figaro dans les années 50 aussi. Quand il était pour ou quand il était contre, ça changeait tout. Quant au succès d'une pièce, est-ce que c'est déjà vrai à l'époque ?
Alors, à l'époque, on peut vraiment nuancer cela, parce qu'effectivement, alors on sait que les acteurs et les actrices lisent la presse et s'émeuvent parfois du fait que si la pièce est critiquée, ça pourrait donc la faire tomber. Mais en réalité, il n'y a pas non plus de cause à effet qui peut être vraiment visible sur les recettes si une pièce a pu être critiquée. Mais c'est vrai que des personnages qui émergent comme Grimaud de la Reynière, c'est un critique qui représente vraiment un courant conservateur, notamment au moment de la Révolution, où il commence à écrire beaucoup dans la presse spécialisée, où il va dire « le jeu se dégrade, la comédie française n'est plus ce qu'elle était, on jouait beaucoup mieux avant, etc. etc. » Donc il porte vraiment cette vision assez moralisante d'une dégradation des arts qui irait aussi avec les bouleversements politiques, en fait.
Dans le même temps, il est notable que les critiques théâtraux sont eux-mêmes critiqués. Je relève dans votre livre, Suzanne Rochefort, cette citation « Un acteur est comme un homme d'une autre profession. Oserait-on faire imprimer la liste de tous les médiocres ouvriers dans tous les genres qui sont dans la capitale et dans les provinces ?» L'état seul de comédien donne-t-il au tout venant le privilège de juger arbitrairement ? Et faut-il que la réputation, le bien-être ou la misère même de celui qui fait cette profession dépendent du caprice d'un homme qu'il a jugé incognito ou d'après son peu de lumière ou d'après quelques ressentiments particuliers ? Il me semble que tout est dit là sur les avantages et les inconvénients de la critique théâtrale.
Oui, complètement. Ce qui est reproché beaucoup aux critiques qui écrivent dans la presse, c'est que ce ne sont jamais des dramaturges reconnus. Et donc, on explique qu'il n'aurait finalement que peu de titres, effectivement, pour pouvoir juger d'une pièce et de la compétence d'un acteur. Et d'un autre côté, ils ont une parole publique qui permet d'évaluer finalement à grande échelle une prestation. Et donc ça, c'est quelque chose que les acteurs et les actrices prennent très mal, de pouvoir en fait être comme ça, critiqués pour leur performance, alors qu'effectivement, un ouvrier qui rate une pièce, il n'y a que quelques personnes qui peuvent être au courant, et là, ce sont des milliers, et ça peut avoir des incidences aussi ensuite sur leurs embauches ultérieures.
Puisque, Suzanne Rochefort, vous poursuivez votre analyse à bon escient jusqu'à la période de la Révolution française, dans ce domaine aussi, il est intéressant de noter on voit apparaître un critère nouveau en face du comédien, c'est le critère du patriotisme, notamment à partir de 1792. Cela mérite qu'on s'y attarde un instant.
Oui, complètement. Alors, effectivement, un des aspects nouveaux qu'on voit émerger, notamment dans la presse, c'est le fait que les acteurs et les actrices peuvent, voire doivent, transmettre des émotions patriotiques. On parlait de Voltaire, par exemple. Quand la pièce Jean Calas est jouée au Théâtre de la République en juillet 1791, donc au moment de la panthéonisation de Voltaire, eh bien, on loue l'acteur Monvel qui a tiré les larmes de tous les spectateurs et tiré des larmes patriotiques.
Peut-être faut-il que vous rappeliez ce qu'était l'affaire Calas d'un mot.
Oui, tout à fait. Donc c'était ce protestant condamné injustement que Voltaire avait défendu longuement dans un traité, justement, contre le fanatisme religieux.
Et cela nous apprend que dès cette période, on porte souvent à la scène des événements récents, ce qui continue naturellement aujourd'hui.
Bien sûr, et la prise de la Bastille déclenche une frénésie d'écriture. En juillet 1789, en fait, les sociétaires reçoivent un certain nombre de pièces traitant de ces circonstances et doivent travailler plus tard le soir pour lire ces pièces et voir s'ils peuvent les monter en vitesse pour répondre vraiment aux besoins du public de voir sur scène ce nouvel événement complètement fondateur et récent.
La Comédie française, d'ailleurs, pendant cette époque, connaît quelques turbulences.
Oui, complètement, puisqu'elle est fermée le 2 septembre 1793 sur ordre du comité de salut public après une représentation qui est jugée antipatriotique de la pièce Paméla.
François de Neufchâteau, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et plusieurs des acteurs seront prisonniers pendant presque un an pour ces raisons-là et leurs papiers sont saisis. Donc il y a effectivement cette menace-là et la Comédie française ne se reformera qu'en 1799.
Sombre jour.
Voilà.
On ne peut pas se départir de l'idée que dès ce moment-là, il y a un sujet supplémentaire d'angoisse pour les comédiens puisqu'ils ne sont pas seulement destinés à séduire leur public, mais aussi à répondre à une aspiration civique. Vous insistez beaucoup dans votre livre sur les coulisses, sur l'inquiétude, sur l'angoisse des comédiens.
Oui, alors cette angoisse, évidemment, elle est de tout temps. Par exemple, on trouve beaucoup cette angoisse de ne pas savoir son texte ou de se tromper, de ne pas avoir mémorisé suffisamment. Mais en Révolution, il y a cette angoisse supplémentaire de se tromper dans les mots, par exemple de dire « monsieur » au lieu de « citoyen » en jouant la pièce. Mais ce sont des choses qui peuvent conduire à la fermeture du théâtre ou à une arrestation.
Qui peut être plus grave que celle que le lieutenant de police Lenoir faisait subir aux comédiens récalcitrants.
Oui, complètement, parce que là, ça peut avoir des conséquences économiques sur le spectacle.
Il faut savoir. Guillotinés.
Pour ces raisons-là, non. Mais à partir de 1796, il y a des inspecteurs de police présents dans chaque salle, chaque soir, pour voir aussi si les acteurs chantent bien les chants patriotiques. Et s'ils chantent faux, s'ils ont une voix qui n'est pas hyper adaptée, on peut les accuser de royalisme ou d'avoir aborder volontairement une chanson. Donc certains vont dire non, c'est juste que je sais pas bien chanter, c'est pas mon métier, mais on les accuse effectivement, on les suspecte d'autant plus de royalisme puisqu'ils peuvent mal chanter un chant patriotique ou dire monsieur au lieu de citoyen, etc. Donc ils sont en fait extrêmement surveillés et suspectés très facilement. Le spectacle, le comédien et le public qui peut s'y rendre aussi. On sait qu'il y a des spectacles qui sont plus fréquentés par un public royaliste et donc du coup forcément ça met une suspicion en fait plus forte sur certains acteurs.
Et naturellement il y a des personnages de la police dissimulés, c'est ce qu'on appellera les renseignements généraux. Ensuite, ça va durer très longtemps pour savoir ce qui se passe dans les salles, éventuellement les chansonniers ou autres, qui peuvent être des lieux de subversion potentielle.
Bien sûr, exactement.
Votre Garnier que vous évoquiez tout à l'heure, écrit après avoir déserté brusquement le théâtre avant une première représentation, écrit ces lignes qui arrachent quasiment des larmes. On est le 4 octobre 1773. Il écrit « Messieurs ». Il écrit à ses confrères. « Messieurs, confus, désespérés de ma triste apparition sur votre théâtre, soit amour propre, soit sentiment de mon insuffisance, je n'ai point osé reparaître devant vous. Conservez-moi vos bontés, messieurs. » Il n'y a pas beaucoup d'espoir. « Conservez-moi vos bontés, messieurs. Je vais tâcher de me mettre en état d'en pouvoir profiter dans un temps plus heureux. » 4 octobre 1773.
C'est cette peur de rater, de compromettre une réputation, et c'est une peur qui en réalité est tout à fait réelle, puisque Garnier à ce moment-là fait ses débuts à la Comédie française pour essayer d'être un sociétaire, mais il ne l'est pas encore, et il sait que s'il rate ses prestations, non seulement il ne sera pas admis, c'est une première chose, mais en plus ce sera beaucoup plus dur pour lui d'être embauché dans un spectacle de province, puisque la presse aura dit entre-temps, il est nul, c'est raté, et donc du coup, il ne pourra pas s'embaucher en province. Et donc, ça peut vraiment ruiner effectivement des carrières. Et ça, on voit que les acteurs et les actrices font extrêmement attention, voire choisissent de ne pas débuter à Paris parce que c'est trop risqué s'ils ont une position en province qui leur convient. Donc ça, c'est une réalité, effectivement.
C'est important d'y tourner, vous le montrez bien.
Oui, alors ça, effectivement, les comédiens de Paris, de plus en plus, s'absentent parfois quelques jours ou quelques semaines pour aller jouer 6-7 fois sur un théâtre en province. Ils aiment beaucoup le faire parce qu'ils sont grassement payés. On a un spécialiste des tournées, c'est le tragédien Lequin, qui fait plus de 36 villes. Alors, c'est sur une vingtaine d'années, mais qui se passionne, en fait, pour ces visites provinciales où ils sont souvent extrêmement loués, en fait, dans la presse de province, accueillis vraiment avec grande joie par les directeurs des spectacles. Et puis, ces tournées, ça a aussi un rôle stratégique pour repérer des futures pépites qu'on pourrait faire débuter après à la Comédie française. Et ça, on voit souvent que des acteurs ou des actrices sont repérés lors de ces tournées, puis ensuite invités à débuter à la Comédie française. Donc, ça a un rôle aussi, vraiment, dans les circulations professionnelles à ce niveau-là.
Je vais vous faire entendre une lettre de Voltaire à Mademoiselle Clairon. Mademoiselle Clairon nous dirait après quelle était sa gloire. Une lettre datée de janvier 1750, qui est ici lue par Claude Morand dans l'émission L'Art du Comédien, propos et pratiques de Madame Simone. Madame Simone, qui a vécu très très âgée, qui était un professeur, notamment, qui était une professeure de théâtre très connue sur France 3 National. On est le 8 avril 1958. On rejoue une des premières pièces de Voltaire, qui était Œdipe, 20 ans plus tard, et vous allez tout comprendre.
À Mademoiselle Clairon. Janvier 1750. On a un peu forcé nature pour mériter les bontés de Mademoiselle Clairon. Et cela est bien juste. Elle trouvera dans son rôle plusieurs changements. On a fait d'ailleurs un cinquième acte tout nouveau. Il est copié et porté sur les rôles. Mademoiselle Clairon est suppliée de vouloir bien se trouver demain au foyer. Elle sera le soutien d'Oreste, si Oreste peut se soutenir. Madame Denis lui fait les plus tendres compliments. Et Voltaire est à ses pieds. Il lui demande pardon, à genoux, des insolences dont il a chargé son rôle. Il est si docile qu'il se flatte que des talents supérieurs aux siens ne dédaigneront pas à leur tour les observations que son admiration pour Mademoiselle Clairon lui a arrachées. Il est moins attaché à sa propre gloire, si gloire il y a, qu'à celle de Mademoiselle Clairon. En général, je suis persuadée que si la pièce peut réussir chez les Français, toute grecque qu'elle est, votre rôle vous fera un honneur infini et forcera la cour à vous rendre toute la justice que vous méritez. Monsieur le maréchal de Richelieu dit que vous avez joué supérieurement et que jamais actrice ne lui a fait plus d'impression. Mais il trouve aussi que vous avez un peu trop mis d'adagio. Il ne faut pas aller à bride abattue, mais toute tirade demande à être un peu pressée. C'est un point essentiel. Il y en a deux qui exige une espèce de déclamation qui n'appartient qu'à vous et qu'aucune actrice ne pourrait imiter. Ces deux couplets demandent que la voix se déploie d'une manière pompeuse et terrible, s'élevant par degrés et finissant par des éclats qui portent l'horreur dans l'âme. Tout le sublime de la déclaration dans ces deux morceaux, les passages que vous faites si admirablement dans les autres, de l'accablement de la douleur à l'emportement de la vengeance, ici du débit, là, les mouvements entrecoupés de curiosité, les sanglots, l'abandonnement du désespoir. Voilà ce que vous mettez dans votre rôle. Mais surtout, je vous demande de ne le jamais ralentir en vous appesantissant trop sur une prononciation qui en est plus majestueuse, mais qui cesse d'être touchante et qui est un secret sûr pour sécher les larmes. Pour le coup, voilà mon dernier mot, mais ce ne sera pas la dernière de mes actions de grâce.
Comme c'est joliment dit, et en même temps comme c'est ferme, n'est-ce pas Suzanne Rochefort ?
Oui, c'est une lettre qui est extrêmement intéressante parce que cette collaboration entre Voltaire et Mademoiselle Clairon, c'est vraiment un exemple à la fois emblématique et unique des liens qui peuvent unir les comédiens et les dramaturges au XVIIIe siècle. Il y a toujours cette tension sous-jacente, parce que cette question-là, c'est finalement qui fait le chef-d'œuvre ? Est-ce que c'est le dramaturge ? Est-ce que c'est le comédien ? Est-ce que c'est l'alliance entre les deux ?
C'est de tous les temps.
C'est de tous les temps. Et Voltaire l'exprime très bien ici. Alors, il dit qu'à la fois, sa gloire passe après celle de Mademoiselle Clairon, mais on sent quand même dans toutes les indications qu'il dit sur un plan artistique, sur la prononciation, sur les effets à faire sur les spectateurs, qu'il a une volonté de maîtrise extrêmement forte sur aussi ce qu'on va faire de son œuvre. Hein, donc on a toujours finalement ces tensions-là qui sont même parfois accrues avec d'autres dramaturges qui prennent très mal que des acteurs et des actrices changent des mots de leur pièce, voire refassent presque entièrement une scène. Là, avec Voltaire, c'est souvent lui qui indique parce qu'il a cette aura et cette stature-là. Mais dans le cas le plus classique, pour les autres dramaturges, bah finalement, ils se retrouvent souvent un petit peu dépossédés de leur œuvre et ils s'en plaignent abondamment. On voit ça dans les registres de la Comédie française. Hein. Ils reçoivent des lettres incendiaires d'auteurs qui sont beaucoup moins connus que Voltaire et qui se retrouvent finalement minorés par les acteurs et les actrices de la Comédie française.
Voltaire, au cœur de sa gloire, a adoré le théâtre. Il faisait jouer, il avait un petit théâtre personnel à Ferney, qui s'appelle aujourd'hui Ferney-Voltaire, son refuge.
Ah oui, complètement. Voltaire joue vraiment sur la vogue de ce qu'on appelle le théâtre de société au XVIIIe siècle. Hein.
C'est important.
Donc, cette passion-là que peuvent avoir donc, des bourgeois, des aristocrates, de faire jouer du théâtre chez eux. Et les comédiens professionnels pouvaient ponctuellement être invités à faire des représentations avec les personnes non professionnelles. Et ça pouvait être un lieu de déclenchement de la vocation ou un lieu, voire, de repérage et de recrutement hein, pour les auteurs ou pour les acteurs qui étaient invités. Donc ça a un rôle quand même hein, dans cette professionnalisation des spectacles au XVIIIe siècle.
Ce propos est d'autant plus éclairant qu'il parle à une des actrices les plus célèbres de son temps. Rappelez-nous qui était Mademoiselle Clairon dans sa gloire.
Oui, alors c'est vraiment une tragédienne extrêmement emblématique. Après Adrienne Le Couvreur, on a vraiment Hippolyte Clairon qui émerge. C'est une personne qui est née près de Valenciennes. Elle vient d'un milieu social assez modeste, hein, un père soldat, une mère lingère. Elle commence le spectacle un petit peu par hasard à Paris en allant à la Comédie française. Elle se passionne et une des actrices de la Comédie française la prend sous son aile. Puis ça deviendra ensuite une actrice emblématique au milieu du XVIIIe siècle, notamment des combats pour être réhabilités, pour que les acteurs et les actrices n'aient plus à être soumis à l'excommunication. Alors, elle ne parvient pas à faire ces changements, hein, mais elle fait écrire à un avocat au Parlement tout un traité. Et puis, c'est aussi une personne qui a été, en tant que comédienne, en tant que femme, extrêmement attaquée aussi, puisqu'elle a des libelles qui sont publiées contre elle, et notamment une fausse autobiographie, hein, donc où il est dit « je », mais ce n'est pas du tout elle qui l'a écrite, et où on présente une jeune femme libertine, aimant les plaisirs de la chair, étant tout le temps en quête d'amant, et n'étant jamais satisfaite, et voulant encore assouvir sa passion charnelle. Hein. Et donc ça, c'est réimprimé maintes et maintes fois au XVIIIe siècle, et donc elle subit aussi ce discrédit qui touche plus particulièrement les femmes de spectacle.
La rançon de la gloire, c'est un regard intéressant également, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une histoire genrée.
Oui, complètement. Ça me semble important, en fait, de bien rappeler que ce discrédit qui touche le métier, il y a aussi une déclinaison genrée qui s'ajoute, plus particulièrement pour les femmes. On critique le fait qu'elles suscitent le désir chez le spectateur, que parfois elles détruisent des familles parce qu'un père de famille parfois se prend de passion pour une actrice, ou que des hommes puissants pourraient dilapider leur fortune en entretenant des actrices. Hein. On sait que Mademoiselle Clairon et d'autres était surveillée à Paris par des inspecteurs du bureau des mœurs pour qu'on voit qui elle fréquentait, est-ce qu'on leur donne de l'argent ou non, etc. etc.
Sous la Troisième République, jusqu'en 1940, on savait que beaucoup d'hommes publics avaient des liaisons avec des femmes de théâtre. Donc
oui.
Ça va se prolonger.
Oui, exactement. Il y a à la fois donc ces liaisons et en revanche le côté de donner de l'argent. Ça, c'est plus particulièrement dans le cas des danseuses d'opéra qui souvent ne sont pas payées, qui sont ce qu'on appelle des surnuméraires et qui là sont véritablement entretenues. Dans le cas de Mademoiselle Clairon, qui est très riche, hein, elle n'est pas à proprement dit entretenue, mais bien sûr le fait qu'elle et des liaisons avec des hommes puissants, bien sûr, suscitent une réprobation forte. Ces comédiennes représentent le désordre hein, dans les normes de genre. Ce ne sont pas les femmes pudiques, modérées, assignées à l'espace privé qu'on voudrait voir. Au contraire, c'est une sorte de contre-modèle, mais un contre-modèle qui fascine aussi, bien sûr.
Un ou deux siècles après, on nous blâme beaucoup moins Clémenceau, Tardieu ou Briand d'avoir ce type de relation. Vous nous montrez parfaitement, Suzanne Rochefort, puisque nous parlons des comédiens et des comédiennes au XVIIIe siècle, de l'ambivalence de leur situation sociale. Et cette ambivalence, nous le disions en commençant, mais il faut y revenir pour finir, cette ambivalence se traduit dans le regard des intellectuels, le mot n'est pas encore d'époque, mais des écrivains divers, et en face, nous le disions tout à l'heure, en face de Voltaire, nous avons montré l'amour du théâtre, en face de Diderot, qui n'était pas moins attaché à la scène, il y a cette protestation de Jean-Jacques Rousseau, et je trouve juste lui donner la parole, c'est sa lettre à D'Alembert, fameuse, sur les spectacles, qu'il a rédigé en 1758. Je l'emprunte à l'émission que j'ai déjà citée d'Adèle Vendrette en juin 2012.
Qu'est-ce que le talent du comédien? L'art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense aussi naturellement que si l'on le pensait réellement, et d'oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d'autrui. Qu'est-ce que la profession du comédien? Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent, se soumet à l'ignominie et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire et met publiquement sa personne en vente. J'adjure tout homme sincère de dire, s'il ne sent pas au fond de son âme, qu'il y a dans ce trafic de soi-même quelque chose de servile et de bas. Vous autres philosophes qui vous prétendez si fort au-dessus des préjugés, ne mourriez-vous pas tous de honte si lâchement travesti en roi, il vous fallait aller faire aux yeux du public un rôle différent du vôtre et exposer vos majestés aux huées de la populace? Quel est donc au fond l'esprit que le comédien reçoit de son état? Un mélange de bassesse, de fausseté, de ridicule orgueil et d'indigne avilissement qui le rend propre à toutes sortes de personnages, hors le plus noble de tous, celui d'homme qu'il abandonne.
On ne peut pas dire là que Jean-Jacques Rousseau, Suzanne Rochefort, aille avec le dos de la cuillère, de servile, ça met sa personne en vente, le trafic de soi-même.
Oui, parce que effectivement, là, il reprend, il développe de manière extrêmement forte une critique souvent faite aux acteurs ou aux actrices, qui est celle de la marchandisation. Donc, c'est-à-dire que finalement, on exerce un art, mais face à des spectateurs qui ont payé pour ça, et donc en quelque sorte, on leur en serait soumis. Et ici, il parle hein, effectivement de mettre sa personne en vente, de trafic de soi-même. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette question-là de lien entre la marchandisation et la soumission, voire l'esclavage. Elle est reprise de manière très forte en 1789, quand il s'agit d'octroyer aussi la citoyenneté aux acteurs. Hein. Et on va justement dire qu'ils sont des citoyens impropres à l'être, enfin en tout cas pour ceux qui contestent cette citoyenneté, hein, qu'ils sont des citoyens impropres à l'être, parce qu'ils ne sont pas des personnes justement libres et émancipées, puisqu'ils sont soumis à des sifflets, à des applaudissements, mais en tout cas à un public payant. Et au contraire, pour d'autres hein, qui sont plus positifs par rapport à cette citoyenneté, eh bien justement, c'est plutôt leur indépendance face au pouvoir qui peut être mis en évidence sur le fait de dire bah, finalement, bah, voilà, ils exercent un métier au service du public qui peut être utile aussi à la nation par la transmission de valeurs patriotiques. Donc en fait, chaque argument peut être retourné, mais en tout cas, Rousseau exprime alors de manière forte hein, et très emblématique une des critiques centrales hein, qu'a pu...
Depuis la Suisse, il y a une conjoncture spécifique.
Oui, complètement. C'est-à-dire que Rousseau, il développe quand même sa critique dans un moment où il veut défendre l'établissement d'un théâtre public à Genève. Il oppose le modèle du théâtre, donc il dénigre, au modèle de la fête civique, qui pour lui est beaucoup plus égalitaire, qui est traversée uniquement de sentiments nobles et sincères, alors qu'au spectacle, ce sont des illusions et surtout, cela ne concerne que des personnes suffisamment privilégié pour se payer une place. Et donc, cela ne convient, en fait, pour lui, beaucoup moins au modèle républicain. Donc voilà, en recontextualisant, on a des éléments supplémentaires aussi sur la manière dont il donne une tournure politique aussi à sa critique philosophique et morale.
Et si on prolonge la réflexion, un demi-siècle plus tard, on peut éprouver qu'au temps de la Révolution, il y a effectivement des fêtes qui s'inspirent d'une tradition théâtrale, la fête de la fraternité, par exemple, le 14 juillet 1790, et qu'en face, il y a cet aspect théâtral des séances de la constituante et surtout, naturellement, de l'Assemblée législative et de la Convention, avec le public dans les travées. Est-ce que vous voyez là, possiblement, une sorte de continuité ou d'influence ?
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que se rejoue à la fois une complémentarité et une distinction très forte depuis la période antique, hein, de cette concurrence et complémentarité entre l'acteur et l'orateur. Donc, est-ce que ça peut être la même personne ? On se méfie beaucoup des quelques acteurs qui prennent la parole dans les districts, de ceux qui peuvent avoir aussi des responsabilités dans la garde nationale, parce qu'on dit ils ont une duplicité en eux, donc ce qu'ils peuvent vraiment représenter les citoyens.
Alors que l'armée avait joué un certain rôle dans le recrutement des comédiens sous l'Ancien Régime.
En fait, tous les spectacles qui sont présents dans les garnisons ont pu déclencher effectivement certaines vocations. Donc là, il y a pu avoir un lien effectivement à ce niveau-là. Mais il y a quand même une complémentarité, voire une collaboration qui peut se mettre en place. Mademoiselle Clairon, dont j'ai parlé, donne des cours de rhétorique et de diction à l'avocat Hérault de Séchelles. Donc c'est en 1794, il me semble. Donc c'est extrêmement intéressant. Il témoigne des cours qu'il a pris auprès de Mademoiselle Clairon, ce qui montre bien aussi comment cet art du spectacle peut être aussi parfois revalorisé par les compétences spécifiques de prise de parole que les comédiens et les comédiennes ont développées dans leur métier.
On a dit d'ailleurs que récemment encore, au XXe siècle, au XXIe, certains hommes politiques, certaines femmes politiques ont pris des cours auprès de sociétaires de la Comédie française. On l'a même dit de général de Gaulle, quand il revient au pouvoir en 1958, je ne sais pas si c'est avéré, qu'il aurait, passant de la radio à la télévision, écouté les conseils de tel ou tel sociétaire de la Comédie française. Mais ceci reste une hypothèse. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, merci Suzanne Rochefort d'avoir fait renaître cette période de ce métier de comédien sous les Lumières. Alors, le titre de votre beau livre et le suivant, « Vie théâtrale, le métier de comédien à Paris entre Lumière et Révolution », une parution chez l'excellent éditeur Champ Vallon, à qui on doit beaucoup d'ouvrages fort précieux, une parution toute récente en 2024. Nous avons, chemin faisant, évoqué la haute figure de votre préfacier, Antoine Lilti, professeur au Collège de France, que j'avais reçu il y a une dizaine d'années d'ailleurs à ce micro pour parler précisément de l'émergence de la célébrité. Le titre de son livre de l'époque était « Figure publique, l'invention de la célébrité, 1750-1850 ». Et puis vous m'avez incité à rendre hommage au livre de Laurence Marie, plutôt littéraire qu'historienne si j'ai bien compris, n'est-ce pas ?
Oui.
Son livre qui s'appelle « Inventer l'acteur, émotion et spectacle dans l'Europe des Lumières », publié aux presses de Paris-Sorbonne en 2019. De quoi s'agit-il ?
C'est un livre, en fait, qui s'attache à tous les traités sur le jeu d'acteurs qui sont publiés en Europe au XVIIIe siècle et qui voit précisément tous ces différents modèles de circulation et quelle forme de jeu était finalement prônée par qui, par quoi et qui s'est aussi influencé. Donc elle revient longuement sur Diderot notamment, mais aussi sur beaucoup d'autres figures qui sont moins connues, mais tout à fait passionnantes, bien sûr.
Donc très complémentaire cet ouvrage de
tout
votre
à fait
propre
complémentaire,
livre.
C'est ça.
J'ai vraiment été heureux de célébrer ce matin Suzanne Rochefort. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète avec notamment certains de vos articles en ligne. Et vous pourrez également écouter, réécouter, podcaster cette émission tout en relevant les références et documents sonores que nous avons utilisés.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie,
drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens.
Et bien, sur le fond d'une chanson que je n'aurais pas besoin de vous présenter, je rappelle que c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet que vous venez d'entendre, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Alexandre Martin à la prise de son, Joséphine Lafaille à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Delphine André.
Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont